Amen. Bonjour à toutes et à tous. On va prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, je veux te présenter ces moments, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ta parole est la vérité, Seigneur. Tu nous sanctifies par ta parole, Seigneur. Je prie que vraiment ce que tu nous communiques, Seigneur, ce que tu as à nous donner ce matin, Seigneur, et que ça puisse agir au fond des cœurs. Merci, Seigneur, parce que tu nous as sauvés. Merci parce que tu as donné ta vie pour nous, Seigneur. Et tu veux que nous les vivions la vie en abondance. Et je veux te louer, Père, pour cela. Amen. 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 Ben, déjà, une petite pensée pour Jonathan. J'espère qu'il va bien. Ça marche. Merci, il revient demain. Je prie que Dieu parle à vos cœurs, à nos cœurs ce matin. Et ce que j'avais envie de vous partager, c'est est-ce que vous avez faim et est-ce que vous avez soif de plus de Dieu ? Est-ce que vous avez envie de voir Dieu à l'œuvre, agir dans la vie des gens ? Moi, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me motive, c'est de voir Dieu agir, transformer les cœurs, transformer les vies. C'est ce qu'on aime voir, comment Dieu, l'amour du Père vient toucher les cœurs et vient toucher les gens. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui ici dans l'Église, c'est ce qu'on a vécu aussi avec mon épouse, là où on était impliqué aussi avant. Et ce matin, j'ai envie de vous donner envie d'être comme des médiateurs, comme des échelles de Jacob, comme des passerelles avec les gens, être ces canaux de bénédiction pour faire goûter aux gens l'amour du Père. Parce que la Bible, elle dit « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. » Amen. Et moi, déjà, je me réjouis parce que la semaine prochaine, on a plein de baptisés. Et on m'a dit, mais on ne les connaît pas, on ne sait pas à quoi ils ressemblent. Voilà. Donc, est-ce que les futurs baptisés, au moins ceux qui sont là aujourd'hui, est-ce que vous voulez vous lever ? Bon, c'est intimidant un peu, mais on peut les applaudir. Il y en a d'autres. Hein. Il y a Anaé et Alessio, mais je pense qu'ils sont avec les ados. Il y a Marina et Jean. Du coup, il y a Manu, il y a Sophie. Ouais, il y a toute une équipe, donc il y en a encore qui statent, mais on a notre prochaine session de baptême de préparation cet après-midi. Donc voilà, priez pour eux, parce que c'est toujours des combats avant le baptême, et ils ont besoin du soutien de l'Église. Ce matin, je voudrais voir avec vous quelque chose, vous allez me dire, Jean-David, t'es gentil, mais ça, tu nous apprends pas grand-chose. Eh bien, je vais justement vous en parler. De ce que la Bible nous définit comme les deux plus grands commandements. Parce que avec mon épouse, l'année dernière, on est passé par un temps où le Seigneur a fait un peu un reset par pas mal de choses dans notre vie spirituelle. Et il nous a amené à nous reposer les questions et à revenir aux fondamentaux. Donc aujourd'hui, c'est ça que je voulais vous partager, revenir aux fondamentaux. Et on s'est interrogé sur aussi qu'est-ce que le Seigneur voulait vraiment pour nous et qu'est-ce qu'il attendait vraiment de nous. Et il y a deux commandements qui sont les plus grands commandements. Vous les connaissez, j'espère. Donc on peut passer la slide suivante. On lit dans Marc 12, verset 28 au 31. Donc c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de sa pensée, de toute sa force, et puis d'aimer son prochain comme soi-même. Ça paraît une évidence comme ça, mais c'est très profond, et c'est là que Dieu nous attend. Et j'ai pris les trois versets, on va les regarder dans le Nouveau Testament, qui parlent en fait de ça, et on va étudier un petit peu ce que la Bible nous dit par rapport à ça. Donc dans Marc, on voit qu'il y a un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Et Jésus répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. » Et Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa lui proposer des questions. Donc on voit dans ce passage, que la mise en pratique de ces deux commandements, je vous l'ai mis en gras, là c'est plus que tous les holocaustes et plus que tous les sacrifices. Donc avant, il fallait faire des holocaustes, hein, pour des sacrifices d'animaux, pour demander le pardon de Dieu. Et on nous dit, Jésus dit, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Et il lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Pourquoi il lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu? Parce qu'il l'a compris avec son intelligence, mais ce n'est pas encore descendu jusque dans son cœur. Et Dieu, aujourd'hui, il veut que ça descende dans nos cœurs, il veut que ça descende dans nos entrailles, et c'est ça que je vais vous parler ce matin, que cet amour de Dieu pour les autres, pour notre prochain, notre amour de Dieu, eh ben, il faut déjà qu'on reçoive l'amour de Dieu pour nous, et il faut que cet amour il sorte de nos entrailles et que ça jaillisse pour la bénédiction, la guérison des autres. Amen. Si on regarde dans le passage suivant, merci à la technique. C'est dans Luc 10, versets 30 et 37, et Jésus va reprendre ces deux commandements. Donc il y a un docteur de la loi qui vient pour l'éprouver, pour le tester un peu, et il va lui demander, mais qui est mon prochain ? Et là, si vous rappelez un peu l'histoire, Jésus va lui rappeler l'histoire du bon samaritain. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit « Va, et toi, fais de même. » Amen. Donc là, on voit que Jésus donne cette parabole et cette image. Alors spontanément, vous connaissez tous l'histoire, mais on s'attend que c'est qui agit ? C'est le sacrificateur. On dit lui, il est hyper spirituel. C'est un homme qui sert. Le lévite aussi. Ce sont des hommes de Dieu. Donc quand ils vont s'arrêter, qu'ils vont voir... leur prochain qui est au bord du chemin, ben c'est eux qui vont lui porter de l'aide, qui vont lui porter assistance. Et on voit que les deux ben, vont passer, vont détourner le regard, mais que celui qui va s'arrêter, c'est le Samaritain. Et lui, on nous dit qu'il fut ému de compassion. Et la petite info sur les Samaritains, c'est que les Juifs de l'époque, ils ne les aimaient pas, ils les méprisaient. Et donc, c'est pour ça que Jésus choisit dans cet exemple les Samaritains. Et pour nous dire que, en fait, depuis le roi Achab, ils avaient une mauvaise réputation parce qu'ils étaient accusés d'adorer des dieux, enfin des choses idolâtres. Pour eux, la centralité du temple, c'était pas Jérusalem, mais c'était sur le mont Garizim. Donc, en fait, ils avaient plein de discordances. Et en fait, il était conseillé d'éviter les Samaritains et ils parlaient pas aux Samaritains. On l'a vu quand Jo vous a parlé de la femme samaritaine. Mais Jésus, il fait exprès à chaque fois de nous parler des Samaritains parce qu'il veut qu'on aille vers ceux qui sont parfois éloignés de nous ou ceux à qui on s'attendrait pas spontanément. Et là, on voit que ce n'est pas celui auquel on pense qui s'arrête. Les deux hommes, ils connaissent la loi. Ils savent par cœur la loi. Ils servent au temple. Ils connaissent les commandements de Dieu. Eux, ils connaissent. Hein, ça vient de la Torah. Donc, ils savent qu'il faut aimer Dieu, qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Ils savent les trucs. Intellectuellement, ils les savent. Ils le prêchent à Shabbat. Donc ça, ils le savent. Mais ils ne le mettent pas en pratique. Et ce que Dieu veut, et ce que Dieu attend de nous ce matin, c'est qu'on mette en pratique sa parole et qu'on exerce cette compassion, qu'on soit ému de compassion et qu'on soit un instrument de miséricorde et de guérison pour les autres. Amen. Et qu'on rejoigne l'autre dans sa souffrance, on va en parler. Le troisième passage, c'est dans Matthieu 22, au verset 36 à 40. Il est dit, Maître, quel est le plus grand commandement, la loi ? Et là, Jésus redit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Donc le cœur, on va voir, c'est les entrailles, l'esprit, la matrice, de toute ton âme, c'est le siège de nos émotions, et de toute ta pensée, c'est le siège de notre intellect. Donc, il dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Alors, qu'est-ce que c'est un commandement ? Est-ce que c'est quelque chose, on a le choix, on peut se dire, bon, je fais pas ? Est-ce que quand il y a des lois, quand il y a un code de la route, on peut choisir d'obéir ou pas au commandement ? Non. Donc, ce qui est bizarre avec ces passages, vous me direz, c'est deux choses qui sont simples. Finalement, il n'y a pas tant de contrepartie que ça. Hein. C'est pas brodé autour. Mais ils sont très exigeants. Il n'y a pas d'alinéa, il n'y a pas de condition, il n'y a pas d'exception. C'est un ordre, c'est un commandement. Et c'est un choix de notre part, délibéré, d'y obéir. Est-ce qu'on va choisir d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée ? Est-ce qu'on va choisir d'aimer son prochain comme soi-même ? Amen. Si on va sur la suivante. L'amour, c'est un choix. Je choisis d'aimer Dieu. Je choisis d'aimer mon prochain. Je vais demander à Dieu de me remplir d'amour pour les autres. Et Dieu va me renouveler et va faire grandir cet amour. Et parfois, d'aimer, ça coûte. Ce n'est pas toujours facile. Même quand c'est difficile. Avec Aurélie, on a accompagné pas mal de jeunes dans des préparations au mariage et ils nous demandaient « Mais comment on peut aimer quelqu'un toute sa vie ?» Et notre réponse, c'est toujours la même, c'est que l'amour, c'est un choix et c'est un engagement, et c'est un engagement perpétuel. Et la source de notre amour, c'est Dieu. Donc c'est lui qui nous remplit de cet amour qui dure, qui se renouvelle et qui grandit au fur et à mesure. Et c'est à nous, chaque jour, de choisir d'aimer Dieu, d'aimer notre conjoint, d'aimer notre prochain, d'aimer nos enfants, d'aimer nos ennemis, on verra, c'est plus dur, on va en parler tout à l'heure, mais de demander à Dieu de nous aider chaque jour d'aimer mieux. Et c'est important de se rappeler aussi pourquoi Dieu, si vous lisez dans l'Apocalypse, dans l'église de Laodicée, il dit « Je t'ai vomi de ma bouche parce que cette église, elle était devenue tiède. Elle était ni chaude ni bouillante, mais elle est dit « Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Donc, mon appel ce matin, c'est vraiment si on veut voir la gloire de Dieu, si on veut voir Dieu se manifester, il faut qu'on soit rempli d'amour les uns pour les autres, rempli d'amour pour Dieu, passionné de Dieu, et qu'on soit plus dans cet intermédiaire de tiède, de « oui, j'y vais, je fais, mais je m'arrange avec les choses ». Non, Dieu, il veut, et les temps vont devenir de plus en plus pressant, on va dire, où vraiment Dieu nous attend, vraiment dans un engagement, dans une consécration totale. Amen. Dans le Lévitique, on voit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Eh bien, Dieu, on voit ce passage aussi au départ, hein, dans le Shema Israël, dans Lévitique 19, au verset 18 et 34, il dit aussi, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. On dit souvent qu'il faut s'aimer. Alors, dans nos milieux charismatiques, on dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, il faut que tu t'aimes toi-même. Et si tu t'aimes toi-même, alors tu pourras aimer l'autre. Je dis c'est pas faux, c'est vrai. Dieu veut qu'on soit réconcilié avec nous-mêmes. Il veut nous guérir de notre passé. Il veut qu'on apprenne à s'aimer. Et que je crois que si on s'aime, on peut aussi aimer les autres. Donc, je ne dis pas que c'est faux comme théorie. Mais quand on voit dans ce passage, on voit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et au verset 34, tu aimeras l'étranger comme toi-même. Et en fait, il y a vraiment l'idée que aussi le prochain, c'est l'étranger. C'est celui qui ne te ressemble pas, celui qui est différent. Et il lui dit, tu te rappelleras, en fait, en comprenant de ce que toi-même tu as vécu en Égypte. Tu te rappelles d'où tu es sorti. Tu te rappelles où tu étais quand Dieu t'a pris. Tu te rappelles dans la galère dans laquelle que tu étais et comment Dieu t'a délivré, comment Dieu t'a sauvé. Eh bien, toi, tu dois aimer l'autre en te rappelant la même chose à travers ce qu'il vit. Pas en le jugeant, en lui disant « c'est pas bien ce que tu fais », etc. Mais tu dois avoir l'amour, la compassion et te rappeler aussi de par là où toi tu es passé. Et ton prochain, il a besoin de ton amour et tu dois te mettre à sa place. Et je ne sais pas aimer quand j'oublie d'où je viens et quand j'oublie ce que j'ai vécu. Si on avance, il est dit dans Colossiens 3, verset 12, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Et dans la version Chouraki, j'aime bien, ça met des entrailles matricielles. Donc on voit que l'amour, c'est une question de cœur. Mais le cœur, c'est vraiment un point central de notre être. Mais on découvre que dans la Bible, quand la Bible elle parle de cœur, eh ben, ça fait plutôt référence aux entrailles. Et les entrailles en hébreu, c'est rahamim, c'est le siège de la compassion. Et on voit à plusieurs moments ce verset-là. Et le singulier rahem, je vous l'ai mis, ça désigne l'utérus, le sein maternel. Donc c'est comme si c'est le côté maternant de Dieu. Et Dieu, il veut qu'on ait des entrailles de miséricorde pour les gens. Il veut qu'on soit comme des mamans qui portent leurs enfants et qu'on soit rempli de compassion pour les gens. On voit ce terme-là, ce mot, on le voit dans Genèse 43 au verset 30, quand on a Joseph avec Benjamin. Il est dit « Ses entrailles étaient émues pour son frère et il avait envie de pleurer ». On voit vraiment, c'est le même terme. Et on le voit aussi dans l'histoire, dans 1 Roi 3, 26, avec Salomon et les deux femmes. Vous savez qu'avec un bébé, et elles se disputaient le bébé, et une disait « mais c'est le mien ». Et la femme dont le fils était vivant, dont le bébé n'était pas mort, mais qu'il était vivant, ben, comme elle aimait tellement son fils, elle a dit ben, « non, c'est le sien », parce qu'elle préférait que son bébé vive plutôt que Salomon tue le bébé, puisque comme il ne savait pas départager, il dit ben, « je vais le tuer ». Et on nous dit « la femme dont le fils était vivant s'adressa au roi, car ses entrailles s'étaient émues à cause de son fils ». La Bible, elle nous parle dans de nombreux passages d'être remué dans ses entrailles, d'être remué dans ses intestins. C'est un cœur dans lequel réside la miséricorde. Les entrailles, c'est vraiment le lieu où il y a la pitié, la compassion, et c'est le centre de la compassion. On voit dans Matthieu, au verset 9, nous dit que Jésus fut ému de compassion pour la foule, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Et alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc on voit Jésus, il dit, il fut ému de compassion pour la foule, pour les gens qui étaient là. Et un peu plus loin, dans Matthieu 14, au verset 14, on voit que c'est écrit que quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, c'est à peu près le même contexte, et il fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Donc, en fait, c'est intéressant de voir que c'est cette compassion que Jésus a pour les gens qui va libérer le miracle et qui va libérer le surnaturel. Parce qu'il est écrit qu'à cet endroit-là, il y a eu plein de miracles. Donc, en fait, le surnaturel qui sort de nous, ça doit sortir d'un mouvement de compassion et d'amour. Ce que je veux dire à l'Église ce matin, c'est que si on veut voir des miracles au milieu de nous, si on veut voir Dieu agir, si on veut voir des malades guéris, si on veut voir des vies sauvées, si on veut voir des gens délivrés, ça va passer que si on aime Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, et si on aime notre prochain. Et si on aime notre prochain, si on est ému de compassion pour lui, si on le rejoint dans sa souffrance, si on veut vraiment lui communiquer l'amour du Père, c'est de ses entrailles de miséricorde qu'il y a des fleuves qui vont jaillir et qu'il va y avoir la guérison, le surnaturel. Souvent on crie, Seigneur, ouais, fais des miracles surnaturels. Le surnaturel, il jaillit de là, il jaillit d'entrailles de miséricorde et de compassion. Amen. Je voulais vous lire, lorsque tu es connecté à l'amour de Dieu, ça libère le surnaturel. Vous allez dire pourquoi il a mis une cravate. Il n'y a pas longtemps, j'ai écouté le message d'un gars. Honnêtement, je me souviens plus son nom, mais ça m'a frappé. C'est un serviteur de Dieu. Et il disait tous les matins, en fait, il demandait au Seigneur de le remplir d'amour pour les autres et de le guider. Et puis un matin, il était invité à un séminaire dans une église et il entend « mets une cravate ». Donc il a eu cette pensée « mets une cravate, mets une cravate ». Et puis il s'est dit « non Seigneur, tu vois, enfin, c'est des gens, voilà, ils ne se prennent pas la tête, ils ne sont pas en costard-cravate, je vais dénoter, ça va faire bizarre si je mets une cravate, ils sont plutôt simples ». Donc il y avait toute une lutte dans sa tête, il se disait « et puis il avait cette parole « cravate, cravate, cravate ». Donc il dit à sa femme, il dit « écoute le Seigneur, il met sa cravate ». Et puis il met sa cravate, il va à la station essence, il va pour remplir, est en train de remplir sa voiture d'essence. Et puis là, il y a un jeune qui s'approche de lui, il dit « monsieur, je vois que vous avez une cravate ». Alors là, ting, ça, les lumières s'éclairent. Il dit « est-ce que vous pourriez m'aider à faire mon nœud de cravate ? Je ne sais pas faire le nœud et tout ça ». Donc il discute et il dit, mais qu'est-ce que, enfin, vous portez une cravate, qu'est-ce que vous faites et tout. Il dit, ben, je suis pasteur. Et le jeune lui dit, je vais à une église et du coup, j'ai mis une cravate. Et le jeune lui dit, écoutez, en fait, moi, je viens de perdre mon père. On l'enterre cet après-midi et puis il commence à s'ouvrir à lui, sur son cœur. Et il dit, avant, on connaissait un peu Dieu, mais on a quitté l'église. Et cet après-midi, aux obsèques, il n'y a personne. Est-ce que vous accepteriez de venir dire un mot pour mon père aux obsèques ? Et donc là, lui, il fait tout de suite le lien avec ce que Dieu lui avait dit le matin. Il dit « ouais, bien sûr ». Et donc, il lui demande l'adresse et tout ça. Et puis, il va faire son culte à l'église. Et l'après-midi, il va aux obsèques. Il annonce l'évangile. Et toute cette famille qui était éloignée de Dieu est revenue au Seigneur et ils se sont tournés vers Dieu. Amen. Et c'est parti d'une chose qu'il a reçue le matin, c'est cravate, cravate. Et il disait, mais pourquoi cette cravate? Et ce que je voudrais vous dire, c'est d'être attentif à ce que Dieu dit, d'être à l'écoute. Et si tous les matins, vous prenez un temps avec le Seigneur, dites, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi aujourd'hui? Comment tu veux que je touche les gens? Qu'est-ce que... Eh bien, si vous êtes sensible à ça, Dieu va vous guider. Et le choix d'aimer, eh ben, c'est les entrailles de miséricorde qui vont agir et qui vont libérer le surnaturel. Amen. Ce que je voulais vous dire aussi, ce qui est important, pourquoi j'insiste sur l'amour, et que ce qui est important, ce n'est pas une reconnaissance qu'il faut chercher dans l'Église. C'est parfois, il y a une fine ligne entre la prophétie et la voyance. Il y a une fine ligne entre la volonté de Dieu, prier avec Jean pour la volonté de Dieu ou prier de manière psychique parce que ça se transforme dans de la sorcellerie. Et il y a une fine ligne entre la compassion et la soif de reconnaissance. Et qu'est-ce que c'est la différence entre tout ça? Eh bien, c'est l'amour qu'on va porter à notre conjoint, à notre prochain. La guérison, la délivrance, les miracles qui sortent de nous, ça sort d'un endroit de compassion et d'amour. Si tu n'aimes pas les gens, eh ben, ta compassion, en fait, tu vas faire les trucs pour briller, pour avoir le micro, pour avoir une sorte de reconnaissance. Si tu n'es pas connecté à Dieu, si ta source, ce n'est pas l'amour pour les gens, eh ben, au lieu de prophétiser pour les gens, eh ben, tu vas doucement dévier, puis tu vas dire des choses un peu plus que ce que tu devrais. Et ce que je veux dire, c'est que moi, je me fixe toujours dans Luc. Luc, il a écrit l'évangile quand même, hein, c'est pas rien. Il ne dit pas « Dieu m'a dit que », il dit « il m'a semblé bon de vous écrire ». Donc, il prend quand même des pincettes. Et nous, parfois, on est là, dit « ainsi parle l'éternel Dieu des armées ». Non, tu peux dire « il m'a semblé bon ». Donc, quand tu reçois, c'est bon de recevoir, c'est bon de partager. Mais on peut dire « écoute, j'ai une image, j'ai une pensée pour toi. Il m'a semblé que je recevais ça ». Et puis, tu vois si ça fait écho dans le cœur de l'autre. Et Dieu agit, Dieu cherche des gens avec un cœur humble. Amen. Par contre, ce que je veux vous dire aussi, c'est que parfois, dans la guérison, dans la délivrance, parfois on a vu des abus dans l'Église. Et donc il y a des gens qui disent « Ah, j'en veux plus, ça c'est tranquille, plus de délivrance, plus de guérison ». Ce n'est pas parce qu'il y a des abus qu'il faut tout jeter avec l'eau, dans l'eau du bain, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est pas parce que Il y a eu des abus, que tu ne dois pas pratiquer la prophétie, que tu ne dois pas prier pour les malades, que tu ne dois pas prier pour la délivrance. Parce que qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Que quand il y a cette onction de guérison, de compassion, et ben c'est là qu'il y a le surnaturel. Jésus, il guérissait les malades, il chassait les démons, et c'est la puissance de Dieu qui amenait les gens à Dieu. Et qu'est-ce qui touche les gens? C'est le surnaturel, c'est la présence de Dieu, c'est la guérison dans leur vie. Donc c'est ce qu'on veut rechercher. Et parfois dans nos églises, on s'est dit un peu, oh ben le dimanche matin, on va être tranquille parce que s'il y a des nouveaux, s'il y a des choses qui se passent, on va les choquer et tout ça. Non, on voit que quand il y a des entrailles de compassion, de miséricorde, quand Dieu agit, Dieu se manifeste et les gens sont touchés. Donc il ne faut pas qu'on tombe dans l'excès inverse, mais de garder vraiment cet équilibre. Et si vous enlevez tout le surnaturel de la vie de Jésus, ben, il ne reste pas grand-chose. Hein, parce que Jésus, toute sa vie, c'est que des signes, des prodiges et des miracles. Et c'est pas avec ça que les gens étaient interpellés. Et Jésus, il fonctionnait depuis un endroit. On peut passer la slide suivante. C'est celui de son être, de son cœur, de ses entrailles. Et c'est cette compassion et cet amour qui sortait de lui qui provoquait le miracle. Dans Proverbe 4, verset 23, il est dit: Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est de cet endroit de puissance, le cœur, que viennent les sources de la vie. Et c'est ses entrailles qui libèrent le surnaturel et cette compassion et qui libèrent le miraculé de Dieu. Jésus dit dans Jean 7, 38, Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et moi, ce que je veux dire, c'est que si vous vraiment vous prenez ça à cœur, vous choisissez d'aimer Dieu de tout votre cœur, d'aimer votre prochain, que vous vous laissez toucher par Dieu dans vos entrailles, et bien vous allez voir que de là, il va sortir des fleuves d'eau vive qui vont jaillir et qui vont couler pour la guérison, la délivrance, le salut. Et ça doit être comme un fleuve de vie, dit que dans le ciel, il y a un fleuve de vie qui coule du trône de Dieu pour la guérison des nations. Et ce fleuve-là, et moi je veux qu'il coule et je veux qu'on l'expérimente encore plus, ça connecte, que ce fleuve de vie, il coule. Amen. Donc pourquoi, vous allez me dire, pourquoi ça ne marche pas parfois? Et bien, qu'est-ce qui bloque ce flux d'amour si on regarde la slide suivante? Pourquoi ben, parfois j'arrive pas à aimer? Qu'est-ce qui fait qu'on a été créé pour aimer, pour être aimé? Et qu'est-ce qui fait que parfois ben, ça vient boucher le puits et que ces fleuves d'eau vive ne sortent pas? Et bien, cette eau, elle est coincée. Du coup, parfois, il faut se poser la question. Notre vie, de toute manière, on est condamné à aimer. C'est la nature de Dieu. Et si on obéit aux deux commandements qu'on a vus tout à l'heure, on est obligé d'aimer. Il y a deux choses qui peuvent bloquer ce flux d'amour. Pour moi, il y en a d'autres, hein, mais les deux principales, c'est les offenses et le non-pardon. Si tu sens plus Dieu, si tu dis j'entends plus sa voix, j'arrive plus à l'entendre, j'arrive plus à l'écouter. Si tu n'arrives plus à aimer les gens, alors demande-toi si tu n'as pas besoin de libérer le pardon ou de refuser les offenses dans ta vie. On peut avoir besoin de pardonner aux autres, on peut avoir besoin aussi de se pardonner à nous-mêmes de nos erreurs et parfois aussi des paroles par lesquelles on s'est lié. Et dans la Bible, le pardon, c'est hyper important. Bon, je sais qu'on a déjà eu un message comme ça, mais j'avais à cœur ce matin, ça m'est revenu. Vraiment, je sentais que le Seigneur insistait sur ça. C'est que le non-pardon, c'est une porte d'accès à l'ennemi dans nos vies. Et il y a deux choses que fait le manque de pardon. C'est un, refuser de pardonner, ben, ça empêche Dieu de nous pardonner nos propres péchés. Si vous lisez le Notre Père, c'est pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont pardonnés. Et on voit que si on ne pardonne pas, eh ben, Dieu ne peut pas nous pardonner. Et le deuxième point qu'on voit dans la parole, c'est que refuser de pardonner, ça donne accès au bourreau dans notre vie. Alors vous allez me dire, c'est quoi un bourreau? Eh bien, un bourreau, c'est quelqu'un qui nous torture. Et on peut être torturé dans notre corps, dans notre âme, par des esprits, parce qu'on refuse de pardonner. Et je dis pas que le pardon, c'est facile, parce que parfois, il y a des choses graves qui ont duré longtemps, et des difficultés parfois à le faire, il y a des souffrances. Mais vraiment, Dieu nous attend. C'est un point Qu'est-ce qui bloque ce flux d'amour? Qu'est-ce qui bloque ça, ce flot de surnaturel de jaillir? Ben souvent, c'est que c'est bouché par le manque de pardon et les offenses. Et je voudrais juste lire un dernier passage, ou peut-être un peu plus. Il faut que je me dépêche, je suis très bavard. Dans Matthieu 18, au verset 23, il est dit, vous connaissez cette histoire, « C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disait, « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Donc on voit là qu'il y a une dette. De 10 000 talents. Donc à l'époque, si on ramène ça à peu près à l'époque, les impôts romains de la région, ça représentait 800 talents. Donc vous voyez que lui, il doit 10 000 talents. Donc on peut dire que c'est à peu près la somme qu'il doit au roi, c'est à peu près, on va dire, le budget d'un gouvernement. À l'époque, il faut savoir que 10 000 dans leur tête, c'est un truc, c'est le maximum en fait de ce qu'on entend comme chiffre. Aujourd'hui, nous, on parle de milliards, on peut parler de triards, ouais, on a d'autres normes, mais à l'époque, 10 000, c'est vraiment beaucoup. Et ça représente à peu près le budget d'un gouvernement. Donc cette dette, pourquoi Jésus il choisit ça? C'est pour nous montrer que cette dette, elle est colossale en fait. Le gars, il ne peut pas rembourser. C'est trop pour lui. Donc, on voit, il vend sa femme, ses enfants, ses biens, et même ça, il n'y arrive pas. Et c'est impossible de rembourser cette dette. Pourtant, une dette, quand elle est contractée, ben, elle doit toujours être payée. Il n'y a pas d'issue à ça. Et la dette, nous, on a une dette. Elle dit que la Bible, elle nous dit que dans Romains 6:3 que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc quand Dieu, il agit, c'est pas qu'il est en colère, c'est qu'il exerce la justice. On a péché, le salaire du péché, c'est la mort. Et nous, on a une dette colossale envers Dieu. C'est-à-dire on a péché, mais on peut pas. Et en fait, Jésus, il essaie de nous faire comprendre à travers cette histoire que c'est colossal. C'est comme vous avez 100 milliards d'euros à rembourser demain, comment vous faites? Vous ne pouvez pas. C'est impossible d'effacer notre péché. Et la seule manière qu'on avait, c'est de croire au sacrifice de Jésus qui, lui, a payé la dette. Il dit qu'il a effacé l'acte rédigé contre nous. Donc cet acte, c'est vraiment la dette qu'on devait. Le document de nos dettes, on trouve dans certaines versions, au lieu de l'acte de transgression. Donc Jésus, lui, il a payé notre dette. Et qu'est-ce qu'il attend de nous? C'est que comme lui nous a pardonné, il a effacé l'acte qui était rédigé contre nous, il a effacé notre dette qui était incommensurable parce qu'on ne peut pas rembourser. Et bien nous, Dieu, il attend qu'on exerce aussi la miséricorde et qu'on pardonne à notre prochain. Amen. Et on voit, ce gars-là, il sait que le roi, on nous dit, le roi aussi, vous avez vu, hein, ce matin, il fut ému de compassion. Il sait que le roi, il est plein de compassion. Le roi, c'est l'image de Dieu dans cette parabole. Il va le voir, il supplie. On dit que Dieu fait grâce aux humbles. Il connaît le cœur du roi. Le roi, il est plein de bonté. La dette, elle n'est pas effacée comme ça. Hein. C'est le roi qui va payer la dette. Et Dieu, il a payé la dette en donnant Jésus, son fils, pour nous. Il a donné un sacrifice qui est très important. Il a donné son fils. Et ce matin, s'il y a quelqu'un dans la salle, je ne sais pas, tu viens la première fois, tu n'as pas entendu parler de Dieu avant, Je veux dire que Jésus, il est mort pour tes péchés à la croix. Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus, il a payé la dette une fois pour toutes, notre dette de maintenant et notre dette qui va venir si il a effacé. Et nous, quand on croit, quand tu crois ça, quand tu acceptes le pardon de Dieu, tu viens un enfant du roi. Et quand tu es enfant du roi, eh ben, tu dois faire comme le roi. Et le roi, il pardonne. L'enfant du roi, il doit apprendre à pardonner. Il doit se comporter comme le roi. Le deuxième, on voit qu'il s'en va. Il est tout content, il a remis sa dette. Et puis celui qui vient, lui, il doit 100 pièces. C'est à peu près 100 jours de travail. Ça fait, mais c'est quand même pas 100 milliards en gros. Hein. Donc lui, c'est quand même à sa portée, c'est remboursable. Mais on voit qu'il va refuser de remettre la dette. Et ce que je veux vous dire, c'est que Dieu est très sensible à la manière dont vous allez traiter les autres. Et Dieu est sensible à ça et que vous devez vous pardonner les uns les autres. Et on voit à la fin de cette histoire, il dit sinon il va les livrer au bourreau. Le roi, quand il voit qu'il n'a pas pardonné, il le livre au bourreau. Et les bourreaux, c'est quoi? C'est des gens qui sont chargés de torturer les autres. Pourquoi? Parce que si on ne pardonne pas, ça donne accès à l'ennemi dans nos vies. Parce que, en fait, ça ne veut pas dire que tu n'as pas été blessé. Ça ne veut pas dire qu'on a mal parlé de toi, qu'on t'a volé, que tu as été victime d'abus. Dis pas que le pardon, c'est quelque chose de facile. Mais la dette, de toute manière, elle ne peut pas être remboursée. On le voit, il y a des gens qui sont condamnés. Bah, les victimes, elles restent parce que ce qui s'est passé, ça s'est passé. Et même que la personne soit en prison, ce n'est pas ça qui va guérir leur cœur et qui va rembourser. Donc, il y a parfois ce désir de vengeance. Mais le seul qui peut guérir ton cœur de l'offense que tu as vécue, c'est Dieu. Et c'est pour ça que dire que la Bible a dit « Sinon Dieu te livre au bourreau », ça veut dire que tu vas être perpétuellement dans l'amertume, dans le désir de vengeance, dans des pensées mauvaises qui vont te tourmenter. Donc il faut renoncer à la colère, renoncer à l'amertume, renoncer à la vengeance et il faut pardonner la personne. Et Dieu dit « Aimez vos ennemis ». C'est pas facile, hein? Il y a des moments où il dit « Seigneur, je choisis de pardonner ». Le pardon, ce n'est pas un sentiment, c'est pas oui, c'est un choix que tu prends. Et après, eh ben Dieu, il va agir là, il va effacer ça de ta mémoire, il va guérir ta mémoire, il va guérir tes émotions. Et tu vas être capable, tu sauras vraiment que tu as pardonné quand ça ne revient plus là et que quand ça remonte là, tu sais que c'est réglé. Mais tant que ça remonte jusque-là et que tu sens que ce n'est pas réglé, eh ben c'est qu'il y a encore des choses que tu dois déposer. Et le pardon, ce que je veux vous dire ce matin, c'est que vous ne le donnez pas pour l'autre, hein. Vous le donnez pour vous-même en premier. C'est pour être en paix avec Dieu. Parce que si tu ne donnes pas le pardon, ça te coupe de ta relation avec Dieu et tu ne peux pas rentrer pleinement dans ce que Dieu a prévu pour toi. Et c'est comme le péché, ça nous coupe de Dieu. Ça met une barrière entre lui et nous. Et le dernier point que je voulais voir avant de finir, c'était de dire, vous avez besoin de pardonner aux autres, vous avez besoin de vous pardonner à vous-même. Parce que parfois on fait des erreurs et parfois on s'en veut, on vit dans la culpabilité, on vit dans le rejet, on vit dans la honte. Et Dieu veut guérir ça et il veut que tu te pardonnes à toi-même parce que lui, il a payé l'acte et il t'a pardonné. Donc arrête de... Sinon tu rends son sacrifice vain, mais crois qu'il t'a pardonné. Et le troisième point, c'est un peu plus tabou parfois, mais ça a été dit ce matin aussi dans la louange, c'était tout conduit ce matin dans la louange, c'est qu'on peut se sentir offensé par Dieu. Parfois. Et ce n'est pas un sujet qu'on aborde dans les églises parce que parfois c'est un peu tabou. Mais je crois que c'est important d'en parler parce que souvent c'est ce qui nous maintient à terre et où on a du mal à décoller. Et moi je sais qu'il y a des moments dans ma vie, ben, je disais Seigneur, mais pourquoi tu n'as pas agi? Seigneur, pourquoi tu n'es pas intervenu? Etc. Et puis Seigneur, il trahissait mon cœur, il disait non, repens-toi. Il disait Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Dieu, il sait ce qu'il fait. Et parfois, on ne comprend pas tout ce que Dieu fait, mais je sais que Dieu, il est parfait. Mais parfois, on peut avoir des choses, des blessures profondes. Et parfois, on dit, mais Seigneur, où est-ce que tu étais? Et ce matin, je voudrais vous inviter, Quand on apprend un temps de prière aussi à regarder des moments difficiles de votre vie où parfois vous avez vécu une fausse couche, vous avez vécu un décès, vous avez vécu des traumas, des choses difficiles au travail et vous disiez « Mais Dieu, où tu étais ?» Et à penser et à réfléchir. Et vous verrez qu'à chaque fois, Dieu était là. Dieu était à vos côtés et Dieu ne vous a pas laissé tomber. Et je voulais vous laisser un dernier passage dans Daniel, dans Daniel 3, quand Shadrach, Meshach et Abednego sont dans la fournaise, il dit « Voici que notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise, il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or. » En paraphrasé, ça veut dire, quand on lit ce passage, ça veut dire « Dieu peut nous délivrer, on le sait. On est dans la fournaise, il fait chaud, on l'a chanté tout à l'heure, tu étais là dans le feu. On sait que dans la fournaise, il fait chaud. » Mais on sait que Dieu peut nous délivrer. Ça, intellectuellement, on l'a compris. Après, on le proclame. Ils disent, Dieu va nous délivrer. Ils le croient. Ils ont la foi que Dieu va agir, que Dieu va intervenir. Et pourtant, là où ils étaient, il fallait ça, une sacrée dose de foi. Et la troisième étape, c'est qu'ils disent, même si tu n'interviens pas, alors nous continuerons à t'adorer toi seul. Et dans nos vies, il y a des moments où on est dans le feu, on est dans la fournaise, on ne comprend pas toujours ce qu'on traverse. Mais dans nos cœurs, on choisit de dire, Seigneur, je sais que tu peux nous délivrer. Seigneur, je sais que tu vas me délivrer. Et même si tu ne me délivres pas, même si j'ai humainement l'impression que tu n'agis pas dans cette situation, je continuerai à te servir et t'adorer toi seul parce que je sais que tu agis toujours et que tu es souverain et que tes plans, tes projets ne sont pas les miens. Amen. Je voudrais juste que si l'équipe de louanges vienne, le culte est terminé, mais je voudrais dire ceux qui veulent, on veut prier pour vous. Si vous sentez que dans vos vies, vous avez du mal à aimer, si vous sentez que dans votre vie, il y a des blessures du passé qui font que vous avez du mal à libérer le pardon, si vous sentez que ce flux-là, au train de vous, il est bloqué, que vous avez en ce moment, vous galérez, vous avez du mal à entendre la voix de Dieu, vous avez du mal à sentir sa présence, je crois que Dieu vous aime et Dieu veut vous toucher ce matin. Dieu veut faire jaillir cette eau. Et s'il y a des offenses, s'il y a du non-pardon, s'il y a des choses dans votre vie encore que vous n'avez pas libérées, libérez-les. Choisissez de pardonner, choisissez de libérer. Amen. C'est pas facile, mais vous n'avez pas d'autre choix que de libérer ce pardon. Et donc, si vous voulez qu'on prie pour vous pour ça, approchez-vous avec les équipiers, on va prier. Et s'il y en a aussi, ce matin, tu es là, tu te dis, moi, tout simplement, je réalise l'amour de Jésus pour moi. Et je veux que Jésus vienne me toucher parce que je comprends qu'il a payé le prix pour moi, qu'il a donné sa vie, que la dette que j'ai, elle n'est pas remboursable parce que tous les hommes ont péché, sont éloignés de Dieu. Mais celui qui est venu pour nous réconcilier avec Dieu, c'est Jésus, pour effacer notre dette. Et si ce matin, tu veux aussi tourner ton cœur, donner ta vie à Jésus, je t'invite aussi à t'avancer. Et si vous avez besoin aussi de guérison physique, de guérison des blessures émotionnelles, on veut prier aussi pour vous ce matin. Parce que je crois que quand il y a l'amour de Dieu qui coule, quand il y a cette compassion, Dieu veut libérer son surnaturel. Et Dieu, il est bon. Il est comme ce roi qui est ému de compassion. Et il veut que cet amour qui tombe du trône de la grâce, il coule ce matin pour guérir. Amen. Est-ce que vous attendez à Dieu? Est-ce que vous avez soif et faim de plus de Dieu? Amen. Et alors, je vous invite à vous lever. Et on va reprendre un chant. Et puis, ceux qui veulent les équiper de prière, si vous voulez venir devant et tous ceux qui ont besoin de prière, je vous invite à vous avancer, on va prier pour vous. Et puis les autres, on vous libère si vous avez besoin d'y aller. Amen.